Mauricie se lève.
Votre source d'information le matin.
Avec Catherine.
Catherine. Catherine, le matin.
Voici Catherine Gaudreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
Oui, c'est Jean-Philippe Lemay qui est avec nous aujourd'hui. Salut Jean-Philippe.
Bon matin Catherine.
Re-bienvenue dans cette émission. Tu seras là aujourd'hui et vendredi.
Oui.
En plus, vendredi, on va pas se parler du premier match des Raptors.
Oui,
ça commence demain. On va se garder ça pour vendredi.
Uh-huh.
Tu penses quoi de la nomination de Dave Tippett chez les Oilers? Moi, j'en suis pas convaincu. Je ne sais pas, Serge, de ton côté.
Ben écoute, moi, c'est un bonhomme qui a roulé sa bosse dans la Ligue nationale de hockey. J'allais dire, c'est tellement tout croche avec les Oilers que moi,
ouais.
je donnerais sa chance à Dave
oui,
Tippett.
Oui, OK.
Ouais.
Jean-Philippe, t'en penses quoi?
Je suis partagé.
Oui?
Les Oilers qui entament une énième reconstruction. On ne finit plus de reconstruire à Edmonton. Où je suis partagé dans la nomination de Dave Tippett, Serge, tu l'as mentionné, c'est un entraîneur qui a roulé sa bosse dans la Ligue nationale. Tout le monde le connaît. Il a dirigé plus de 1000 matchs avec les Stars de Dallas et les Coyotes de l'Arizona. Mais moi, il a remporté d'ailleurs le trophée Jack Adams, remis à l'entraîneur de l'année en 2009.
Mais habituellement, ils se font congédier l'année suivante.
Ben, c'est,
oui.
c'est ça. Ou à la limite, ce trophée-là survient souvent après la première saison, comme ça a été le cas pour lui en Arizona. Mais. Au-delà de ça, moi, où je suis partagé, c'est que les 5 dernières saisons qu'il a dirigées avec les Coyotes de l'Arizona, ils ont été exclus des séries éliminatoires.
Ouais.
Rappelons-nous qu'à l'époque, okay, on trouvait que l'avenir était prometteur en Arizona avec les Max Domi, Dylan Strome, deux choix de première ronde, très prometteurs. On est même allé chercher Anthony Duclair à l'époque parce qu'il y avait une belle chimie avec Max Domi au championnat mondial de hockey junior. Et puis quelques années plus tard, ben, ni Domi ni Strome se retrouvent en Arizona et les deux ont sorti de leur coquille respectivement avec Montréal et Chicago. Donc, au niveau du développement des jeunes joueurs, parce que c'est ce qui a été mis de l'avant hier avec la nomination de Dave Tippett, c'est de dire, bon, ben, il était habitué de diriger des jeunes groupes de joueurs, donc pour leur développement, l'avenir est prometteur à Edmonton, etc., etc. Bon, on peut se questionner là-dessus. Moi, où je me questionne, c'est vraiment sur l'habileté à cet entraîneur à dire, ben, à travailler avec des jeunes joueurs et à les développer, à les amener à un autre niveau. Et c'est là que j'ai une certaine... j'ai certaines réserves par rapport à cette nomination. L'avenir nous le dira, mais chose certaine, jusqu'à qui, aujourd'hui, n'a pas prouvé qu'il était apte à amener ces jeunes joueurs-là à un autre niveau. Et c'est facile pour moi de jouer au gérant d'estrade, mais je me base vraiment sur les faits.
Je me pose la question, messieurs, parce qu'on regarde les Oilers. Bon, tu sais, évidemment, ils ont le meilleur joueur de la Ligue nationale actuellement, Connor McDavid. Ils ont de bons jeunes joueurs. Mais je me demande, c'est-tu gangréneux à Edmonton? Y a-tu quelque chose de plus profond? Parce que ben là, on dit, bon, Tippett, il faut qu'il fasse le travail. Oui, mais les joueurs, il faut qu'ils fassent la job aussi. Y a-tu quelque chose de gangréneux qu'on sait pas?
Oui, mais c'est du côté des Oilers, puis effectivement, puis c'est une équipe qui a eu longtemps les premiers choix au repêchage de la Ligue nationale, les Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins, qui lui est toujours avec l'organisation, avec l'équipe, puis Jordan Eberle. Tu te demandes comment ça se fait que, puis c'est des jeunes extrêmement talentueux, peut-être à peu près le même type de joueurs, par exemple. Est-ce que c'est des joueurs qui ont pas été assez bien entourés de bons vétérans? Parce que des fois, ça te prend un bon vétéran qui va aider, si tu veux, à pousser les jeunes dans la même direction. C'est extrêmement difficile pour justement de où mettre le point sur le bobo concernant les Oilers d'Edmonton. Ils ont tous été mal dirigés, c'est peut-être ça aussi.
Oui, d'une part, mais de l'autre, c'est qu'on parle d'encadrement des jeunes joueurs. Moi, je me souviens, il y a quelques années, ça avait pas passé inaperçu, mais en fait, l'organisation avait décidé d'effacer son passé, si on veut, pour passer à une autre chose, une nouvelle ère et tout ça, en excluant les anciens qui sont les bâtisseurs de cette organisation-là, qui ne manquaient jamais les séries. Les Oilers, là, c'est 12 fois exclus des séries à leurs 13 dernières saisons. Je veux pas taper sur l'organisation, mais effectivement que la question se pose.
Ouais.
Le directeur général a un rôle à jouer. L'entraîneur en a un, effectivement. Mais bon, là, Ken Holland a fait des bonnes choses avec les Red Wings de Détroit. Bon, a décidé, là, maintenant que Dave Tippett était son homme. Donc, comme tu disais, Serge, donnons une chance au coureur. Mais moi, je m'explique mal comment tu peux avoir deux marqueur en fait de 100 points. Les deux ont récolté plus de 100 points, McDavid et Draisaitl. Draisaitl a marqué 50 buts cette année et on est encore exclu des séries. Je peux vous dire une chose, on est exigeant envers le Canadien de Montréal, mais je peux vous dire qu'on ferait de l'urticaire depuis longtemps si on était à Edmonton, parce qu'honnêtement, 12 saisons sur 13 être exclu des séries éliminatoires.
Non, c'est inacceptable.
Ben, et à précisons que Taylor Hall n'est plus dans l'organisation.
New Jersey.
Eberle n'est plus là non plus.
Taylor Hall, ça a fait mal. Ça, c'est la pire transaction. Je pense qu'ils s'en sont pas vraiment remis. On verra pour la prochaine saison, mais 12 années sur 13 à pas faire les séries, que ce soit le Canadien, les Oilers ou une autre équipe, on s'entend que c'est inacceptable. Tu veux souligner le travail d'un gars de chez nous, Alex Bocage, avec les Huskies, qui a fait tout un boulot cette année.
On s'entend que pour tous les joueurs et l'organisation des Huskies de Rouyn-Noranda, ça a été une année de rêve.
Ouais.
Mais pour le trifluvien Alex Bocage, il y en est tout autant. En fait, 39 buts, 79 points en saison régulière, dont 39 buts, 16 points en 16 matchs en séries éliminatoires. Puis ce que je trouve intéressant de ce parcours-là, c'est que pas de répit pour lui. Cette semaine, il est à Buffalo. Pour mettre nos auditeurs en contexte, la Ligue nationale de hockey tient à tous les ans son fameux combine, qui se veut une semaine, si on veut, de speed date, si je peux me permettre, avec les différentes organisations de la Ligue nationale de hockey. Des tests physiques aussi qui sont reliés à ça. Et ce sont tous les meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage qui sont regroupés ensemble.
Pour se faire voir, dans le fond.
Pour se faire voir.
Ils peuvent échanger avec les équipes.
Exactement, exactement. Puis, dans le cas, Alex Bocage, qui a joué au hockey jusqu'à dimanche dernier, il arrive là vraiment au sommet de sa forme, mais c'est certain qu'il n'aura pas eu l'occasion d'être en gymnase comme la plupart des autres espoirs.
Oui, puis il est un peu fatigué
présents.
Aussi, c'est exigeant.
Ça
arrête comme jamais.
Ça arrête jamais.
Non, puis faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Catherine, lui, Alex, n'est pas retourné avec l'équipe à Rouyn-Noranda lundi au retour. En fait, il s'est dirigé directement à Buffalo. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Précisons aussi qu'Alex est le 64e espoir nord-américain en vue du prochain repêchage, ce qui n'est pas rien. Donc, une grosse semaine.
Donc, ça veut dire quoi? Il devrait sortir peut-être en deuxième ronde? Deuxième ou troisième ronde, possiblement?
On pourrait être conservateur, à dire les trois premières rondes, espérer les trois premières rondes à tout le moins, surtout avec la saison qu'il vient de connaître. De son propre aveu, c'était une saison qui était peut-être en deçà de ses standards, en fait, des objectifs qui s'étaient fixés. Mais quand même, 79 points, 39 buts, c'est à 17 ans.
Oh oui, non, non.
À 17 ans,
c'est... Le potentiel est là.
Oui, tout à fait.
Est-ce que ça pourrait être un choix intéressant pour le Canadien?
Oh, oui. Je te dis oui parce qu'on a toujours. Moi, je parle peut-être plus avec mon cœur, là.
Mais dans le style de joueur qu'il est.
Oui, mais écoute, c'est un joueur qui est fin qu'une rondelle. Puis moi, je me fais toujours penser à son père, Marc, que j'ai suivi quand il jouait junior. Même, il a joué avec les Patriots de l'UQTR. Oui, je pense, le Canadien n'a jamais assez de joueurs québécois dans son organisation.
De bons joueurs québécois.
De bons joueurs québécois. Puis qu'à un moment donné, il va peut-être se retrouver. Il se retrouverait avec l'équipe à Laval, le club école. Pour graduer ensuite avec le Canadien. Moi, je pense que le Canadien pourrait laisser une porte ouverte.
Avec son coéquipier, pourquoi pas. Ouais. Moi, je ne serai jamais très objectif, Serge Catherine. Je tiens à vous le dire, quand on va parler des joueurs québécois avec le Canadien de Montréal.
En plus, un gars de chez nous.
Ça serait le fun. Effectivement.
On va suivre bien sûr ce soir le deuxième match de la série finale de la Coupe Stanley. C'est drôle, à la maison hier, on se disait... c'est le fun, c'est correct cette série-là, mais on s'ennuie l'année passée. Cette magie des Golden Knights. On était presque devenus des...
C'est l'équipe Cendrillon.
On
aime ça, ces histoires-là.
Cette année, il n'y a pas de Crosby, t'as pas d'Ovechkin. On aime Patrice Bergeron, mais tu sais, il manque le petit vous.
Et on aime aller les Bruins de Boston. Et,
dans certains cas,
dans la plupart des cas, disons-le. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, de cette finale-là, c'est que, rappelons-nous, il y a quelques jours, on parlait du fait que personne ne voyait venir les Blues de Saint-Louis. On a répété à maintes et maintes reprises qu'ils étaient derniers au classement général au fight, ou un petit peu après en janvier.
Mm-hmm.
Maintenant, en finale de la Coupe Stanley, c'est une histoire incroyable quand on y pense. Mais effectivement, il y a peut-être moins de magie, si on veut, autour de cette finale-là. Mais moi, je la trouve pas moins intéressante pour autant. Les Blues, qui étaient en plein contrôle du match à 2-0, les Bruins qui ont su répliquer, être résilients, revenir dans ce match-là, c'est toute qu'une machine de hockey, les Bruins de Boston.
Ouais.
Les Blues également, avec tout ce qu'ils ont traversé. Donc moi, je m'attends vraiment à ce que les Blues sortent fort pour le deuxième match ce soir. Oui, parce que, veux pas, t'es en finale à la Coupe Stanley, ce sont tous des matchs pas de lendemain. D'amener 2-0 et finalement de partir, en fait, de terminer ce match-là avec un revers de 4-2, détrompez-vous, il n'y a pas personne dans ce vestiaire-là qui était satisfait de sa performance.
Tu joues à domicile en plus. Si tu perds le premier match, c'est pas catastrophique. Mais on n'arrête pas de parler que tu te bats pendant la saison régulière pour l'avantage de la glace. Puis, ça part toujours mal. T'sais, même si tu es capable d'aller chercher un match ou deux à Saint-Louis en partant, quand tu peux gagner le premier match, bien évidemment, les Bruins sont sûrement très heureux de ça.
Tout à fait. Puis, dans le premier match, l'apport de la profondeur des Bruins, dont le quatrième trio, ça n'a pas été l'histoire de Brad Marchand et Patrick Patrice Bergeron, des joueurs qui sont marqués, veux pas, quand tu arrives aussi loin en série. Donc, c'est l'apport de la profondeur, justement, qui fait la différence. On va voir qu'est-ce qu'il en sera du deuxième match de ce soir. Mais ça promet, même s'il y a peut-être un petit peu moins de magie.
Ouais, il y en a moins. Il y en a pas mal moins. On va se le dire. Ça donnait un bon match, là. Comprenez-moi bien. Je vais continuer de le suivre. Mais l'année passée, une espèce de frénésie qui faisait que, oh, wouh! C'est parce que quand le Canadien n'est pas là, on essaie de se trouver une équipe qu'on peut suivre. Bon, oui, il y a des partisans des Bruins dans la région, puis tant mieux, si vous êtes bien content, là. Mais tu sais, je peux pas dire que j'ai un sentiment d'appartenance pour les Blues, tu sais.
Non.
Pas tant que ça. Dernière question avant d'enchaîner avec Clément Mas. Je sais pas si tu suis un peu Roland Garros. Moi, hier, je suis arrivé à la maison, j'ai écouté le match d'Eugénie. Uh-huh. Moi, je pense qu'Eugénie, c'est une question de temps avant qu'elle annonce sa retraite. Es-tu de cet avis-là?
T'en as parlé il y a quelques jours à peine avec Michel. Oui, je tends vers ça moi aussi. Je pense que c'est une joueuse qui a connu des bons moments. On peut plus parler d'un début de carrière, là. Je veux dire, elle est rendue à 24-25 ans.
25 ans.
25 ans, c'est ça. Bon, on voit un petit peu ses implications sociales. C'est sûr qu'il semble y avoir beaucoup de distractions dans l'entourage d'Eugénie. Beaucoup de changements d'entraîneur aussi dans les dernières années. Je suis partagé moi aussi. Je me questionne à savoir qu'est-ce qui en sera en fait, qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Et ça me fait penser à une certaine Anna Kournikova. Je sais pas si tu as connu. Je veux pas faire de comparatif boiteux, mais Anna Kournikova, qui est une très belle femme et tout ça, on voyait qu'elle avait des aspirations hors tennis et tout ça. Bon, est-ce que ça a amené des distractions qui ont écourté sa carrière? Peut-être qu'elle avait peut-être pas le talent d'Eugénie.
Non, c'est ça. À sa défense, Eugénie est plus talentueuse que Anna Kournikova.
Kournikova s'est jamais rendue cinquième tête.
Non, jamais. Non. C'est ça la différence.
Classée cinquième comparativement à Eugénie Bouchard.
Mais je parle de
je comprends
des
ce que
distractions,
tu veux dire.
Si on veut, autour.
Deux belles filles, deux filles qui ont beaucoup utilisé leur physique aussi, puis c'est correct, mais c'est triste de voir ça.
Je voulais pas t'interrompre, mais c'est parce que c'est un sport qui est tellement exigeant mentalement. Le tennis, c'est un sport individuel.
Ouais.
Tu peux pas t'en remettre à tes coéquipiers et tout ça. Tu peux des fois t'en remettre à tes entraîneurs pour t'accompagner, t'entourer là-dedans. Mais dans le cas d'Eugénie, il y a tellement eu de roulement des dernières années dans son entourage au sens large. Moi aussi, je pense que la question se pose, Catherine.
On verra pour la suite des choses. Alors voilà, on s'en reparlera. On se retrouve vendredi?
Absolument,
après
avec grand plaisir.
Après le premier match des Raptors.
Déjà hâte d'en parler.
Alors je le sais. Salut Jean-Philippe.
Bonne journée.
À vendredi. Jean-Philippe Lemay, qui est là avec nous aujourd'hui et vendredi. Demain, Michel est de retour.